Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un système juste et équilibré financièrement. Jean-Paul Delevoye, chargé de la réforme des retraites, donne quelques pistes ce matin dans la presse et lance une consultation citoyenne pour uniformiser les systèmes français. Analyse de Jean-Marc Chardon dans un instant.
Le mécénat plutôt que les impôts. Voici comment le gouvernement souhaite financer en partie la rénovation du patrimoine français. Entre instrumentalisation et retombées économiques réelles, vous l'entendrez.
En Ukraine, certains journalistes ont bien eu l'impression d'être instrumentalisés. Annoncé mort, le reporter russe Arkady Babchenko est finalement vivant. Kiev a voulu piéger Moscou, Reporters sans frontières dénonce.
Et puis nous irons en Espagne, où Mariano Rajoy est en mauvaise posture face à une motion de censure de l'opposition. Pris dans une affaire de corruption, le Premier ministre refuse de démissionner.
Emmanuel Macron promet le changement en France. Sur les états généraux de l'alimentation, on assiste à un changement, oui, mais qui va dans le même sens, nous dira Ludovic Piétenu dans son billet politique à la fin de ce journal. C'est sans doute la plus difficile des transformations à venir pour le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais il l'avait promis, réformer les retraites. Pour préparer le texte qui doit unifier les 42 systèmes pour plus d'équité, le gouvernement lance aujourd'hui une consultation citoyenne avec beaucoup de questions qui restent en suspens. Mais depuis un mois, Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites, consulte les syndicats pour éclaircir ce projet. Il livre ce matin ses premières pistes dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Colonne que vous avez lue. Jean-Marc Chardon, bonjour.
Bonjour Clara.
Chef du service économie de France Culture. Jean-Marc, l'âge légal de départ à la retraite, 62 ans, ne sera pas modifié. Jean-Paul Delevoye le confirme et il évoque un système à points.
Oui, un système par points sur le principe qu'un euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le statut de celui qui a cotisé a priori. On peut se dire que c'est assez logique, sauf que ça chamboule le système actuel, lequel fonctionne sur des annuités. Le montant de la retraite, il est calculé en fonction du nombre de trimestres travaillés. Et pour ceux qui n'ont pas le nombre requis, eh bien, ils subissent une décote, ça baisse leur pension. Avec un système par points, les personnes qui travaillent vont en accumuler des points jusqu'à les convertir en pension à leur départ en retraite. Mais la grande différence, c'est qu'il n'y aura plus de montant minimum de pension, puisque ça dépendra de la valeur du point, laquelle reste à définir. Première difficulté. Alors, trouver des critères afin qu'à revenu identique, on dispose d'une retraite identique, c'est ce que déclare Jean-Paul Delevoye. Cela veut dire qu'il va falloir faire converger réellement le public et le privé, alors que jusqu'à présent, on les a simplement rapprochés et encore par étapes successives.
Lisser tous les systèmes pour les uniformiser donc. Certains régimes spéciaux, pourtant, ne seront pas abolis.
Ah, ils ne vont pas disparaître, ces régimes spéciaux, c'est qu'ils sont nombreux, pas moins de 42. Les militaires, ceux de la SNCF, les marins, Banque de France ou encore les clercs de notaire. Des régimes qui sont le plus souvent déséquilibrés démographiquement. Il va donc s'agir de trouver le moyen de les faire converger avec un régime universel tout en les aménageant. Alors, ce qui signifie quoi? Eh bien, faire la part entre des spécificités qui méritent d'être regardées et puis d'autres qui ne le sont plus. Pas facile, on l'imagine, de revisiter des régimes qui ont plusieurs décennies d'existence.
Voilà pour les pistes, Jean-Marc, pour un vote prévu à l'Assemblée l'année prochaine, à l'été 2019, une application à partir de 2025. Le gouvernement prend du temps, alors qu'initialement, la réforme devait se faire plus vite.
Ah oui, ce devait être un chantier prioritaire. Alors, il le reste quand même, mais le gouvernement, cette fois, prend le soin de l'étaler sur un calendrier qui est plus long. C'est que ça nécessite en effet non seulement de consulter les organisations syndicales et professionnelles, mais aussi de prendre le pouls de l'opinion, ce qui est le sens de cette consultation par Internet, ainsi que la mise en place d'ateliers. En tout cas, le gouvernement a compris qu'il devait associer au maximum les intéressés avant de lancer un chantier qui sera considérable par ses effets.
Merci Jean-Marc Chardon, chef du service économie de France Culture. Effectivement, une grande consultation des Français est lancée sur Internet à partir d'aujourd'hui sur les retraites. Les citoyens sollicités, ils le sont aussi pour financer le patrimoine. L'appel en tout cas sera précisé ce jeudi par Emmanuel Macron avec l'officialisation d'un loto du patrimoine. 15 euros par ticket pour une enveloppe de 15 à 20 millions d'euros destinée aux établissements, aux bâtiments qu'il faut protéger. Autour de Stéphane Bern, 269 sites ont été retenus pour en bénéficier. 18 d'entre eux seront assurés de recevoir des aides allant de 100 000 à 1 million d'euros. Pour les 251 autres, eh bien, il va falloir se répartir le reste du pactole. Populariser la représentation du pouvoir de l'histoire et en profiter pour faire une opération financière. Une stratégie analysée ce matin pour nous par Brice Couturier, chroniqueur à France Culture, qui vient d'écrire un livre intitulé « Macron, un président philosophe ».
Ce dont il s'agit principalement, c'est de la réconciliation des mémoires nationales. Macron est hanté par l'idée que la France est victime d'une crise civilisationnelle et culturelle, comme il dit, autant que sociale et économique, et que donc il faut réconcilier les mémoires nationales, qu'il faut restaurer une fierté nationale. Et la fierté nationale, elle s'incarne évidemment dans nos monuments, autant que dans notre culture et dans notre langue. Donc il reçoit Poutine au château de Versailles, il se rend au fort de Brégançon qu'il est en train de restaurer pour y passer des week-ends, il fait son anniversaire au château de Chambord, il visite le château de Voltaire à Ferney-Voltaire sur la frontière suisse. Et il y a le côté économique toujours avec Macron, c'est toujours lié. N'oublions pas que nous sommes une des grandes destinations touristiques du monde et que ce que les étrangers viennent voir chez nous, c'est pas seulement nos plages et les installations d'art contemporain qui défigurent souvent notre patrimoine, mais c'est précisément ce patrimoine lui-même. Il faut aussi voir que tout ça est très symbolique en réalité, parce que les ambitions de Stéphane Bern avec son loto du patrimoine, c'est peu de choses, c'est entre 15 et 20 millions d'euros. Alors que la ministre estime que les crédits du ministère de la Culture dévolus à l'entretien des monuments historiques, c'est 326 millions d'euros par an. Donc on voit bien que tout ça est assez symbolique.
Brice Couturier au micro de Stéphane Robert. Le clap de fin pour Whirlpool à Amiens, l'usine de fabrication de sèche-linge qui avait été l'un des enjeux de la présidentielle l'année dernière, ferme définitivement ses portes ce soir. L'enseigne américaine délocalise sa production en Pologne. Le site est repris dès demain par la société WN. Sont conservés sur place 174 des 278 emplois. L'auteur de l'attaque de la ville de Liège est un soldat de l'État islamique. Voici la revendication du groupe terroriste par communiqué hier, un peu plus de 24 heures après la fusillade qui a fait 3 morts dans la ville belge. L'assaillant avait été tué dans la foulée. Multirécidiviste, il est soupçonné d'avoir commis un autre meurtre avant cette attaque. Et surtout, il se serait radicalisé en prison, selon le parquet belge. La Belgique avait pourtant commencé à isoler les prisonniers à risque, Johanna Hochstein.
Après les attentats de Bruxelles, les autorités belges décident de lancer un projet pilote dans 2 prisons du royaume pour éviter le prosélytisme. Le projet, baptisé De Radex, s'inspire du modèle français. Objectif, isoler les détenus radicalisés, des éventuels recruteurs, dans une aile spécifique sous très haute surveillance. Dans la prison de Ittres, il y a 20 cellules pour ce type de profil. Mais selon Vincent Gontier, agent pénitentiaire dans cet établissement, ce système n'empêche pas le contact entre ces radicalisés et les prisonniers de droit commun.
Là où est le plus grand contact, et celui qu'on ne peut pas empêcher, c'est qu'ils ont des fenêtres, ils parlent par la fenêtre avec les autres détenus. Chez nous, à 20h30, on a rentré tous les détenus en cellule, jusqu'au lendemain matin, à 6h du matin, ils ont plus de 10 heures pour discuter par la fenêtre et prêcher la bonne parole.
Pour les agents qui ont choisi de travailler dans cette section, une formation est obligatoire. Elle comprend des notions sur l'islam, sur les dérives radicales, sur la manière de les détecter et sur le comportement des détenus recruteurs. Une formation qui, selon les gardiens, est nettement insuffisante.
C'est du jamais vu pour une grande entreprise, une mise en examen pour financement du terrorisme. Lafarge est convoquée mardi prochain au pôle financier de Paris, c'est une information de nos voisins de France Inter. Le cimentier reconnaît avoir indirectement financé des groupes armés, dont le groupe État islamique, pour faire tourner son usine en Syrie jusqu'en septembre 2014. 13 millions d'euros au total sont évoqués. Les débats vont se terminer ce matin à Nice au procès de Stéphane Turc, ce bijoutier jugé pour le meurtre de l'un de ses braqueurs venu cambrioler sa bijouterie. Avant que les avocats des parties civiles ne prennent la parole, ce jeudi, Stéphane Turc sera encore interrogé une dernière fois, comme il a été hier en fin de journée, Florence Turm.
3 tirs, 3 ou 4 secondes qui peuvent tout changer dans ce procès où la défense va plaider la légitime défense, notion très encadrée par le code pénal. Stéphane Turc revient à la barre après une journée très technique consacrée au rapport des experts et le président lui demande à nouveau sa version des faits. « C'est une tragédie pour la famille Asli, pour moi, pour le magasin », reprend l'accusé, « mais c'est involontaire, ce n'était pas mon choix. Le premier tir, c'était pour arrêter le scooter. » Après, il a retourné le fusil contre moi et j'ai eu peur pour ma vie. Quelqu'un qui vous menace, il vous fait face, le coupe calmement le magistrat. Il ne présente pas son dos. On sait avec certitude que la balle est entrée par l'omoplate. Nouvel arrêt sur image, à partir de la vidéosurveillance de la bijouterie, mais on ne voit pas l'extérieur de la rue et le scooter qui prend la fuite. C'est pourtant le point crucial pour fonder la légitime défense, synonyme d'acquittement. Savoir si oui ou non, à ce moment précis, l'un des deux malfaiteurs a pointé une arme sur le bijoutier. Aucun témoin n'a vu le conducteur ou le passager vous menacer, intervient l'avocate générale, dont on devine qu'elle soutiendra l'accusation d'homicide. Vous êtes le seul à porter cette parole. Le discours de Stéphane Turc devient de plus en plus confus entre le français et l'arabe, des questions qu'il n'écoute plus, la fatigue qui gagne. Il répète encore et encore « Je n'ai pas tiré pour tuer ». Je ne suis pas un assassin.
Florence Turme depuis Nice pour France Culture.
8h10 sur France Culture avec la suite des matins et le journal de Clara Lecoq-Réal. Des dizaines de journalistes se sont réunis hier soir sur la place centrale de Kiev.
Pour trinquer, s'embrasser, pour célébrer surtout la résurrection de leur collègue le russe Arkady Babchenko. Kiev avait en fait mis en scène sa mort avant-hier soir pour empêcher, selon les autorités ukrainiennes, un meurtre commandité par la Russie. Une personne aurait d'ailleurs été interpellé. Moscou dénonce de son côté une provocation anti-russe et Reporters sans frontières, qui avait hier matin demandé une enquête sur ce meurtre. RSF dénonce maintenant une manœuvre lamentable par la voix de son secrétaire général Christophe Deloire.
C'est lamentable ce nouvel épisode de guerre de l'information entre l'Ukraine et la Russie. C'est une guerre de l'information extrêmement violente, incessante. Et là, on est face à un mensonge d'État. Des services ukrainiens qui montent un simulacre, une opération, alors peut-être pour élucider ça, les enquêtes journalistiques le diront, mais quels que soient les motifs, un État ne doit pas jouer ainsi avec la vérité, avec les faits, et a fortiori sur le dos d'un journaliste. Ce qui a été fait là, ça dessert clairement la cause de la liberté de la presse et de la protection des journalistes.
Alors pour rappel, Arkady Babchenko avait fui en Ukraine après avoir dénoncé le rôle de la Russie dans le conflit avec la Crimée. Un faux meurtre d'autant plus étrange qu'il pourrait ne rien résoudre, estime cette fois la spécialiste de la Russie Hélène Blanc, auteure notamment du livre Nuremberg de communisme.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que si le FSB a décidé de l'éliminer, eh bien, ce sera reculé pour mieux sauter, parce que quand ils ont décidé de tuer quelqu'un, un traître, enfin quelqu'un qui les gêne, qui les estime devoir éliminer, sur le court terme, peut-être que c'est une victoire pour le service secret ukrainien, mais sur le long terme, je pense qu'ils arriveront quand même à l'éliminer d'une manière ou d'une autre. Ça sera sous la forme d'un accident, d'un suicide.
La manipulation, les deux camps savent faire avec.
Mais tout à fait. Là, il y a, bah, vous savez, le SBU ou le FSB, c'est-à-dire que c'est toujours le même KGB soviétique, hein.
Hélène Blanc avec Nathanaël Charbonnier. L'acier et l'aluminium européens taxés à partir de demain aux États-Unis, c'est ce que Donald Trump s'apprête à annoncer dans la journée selon le Wall Street Journal et Reuters. Après la décision américaine en mars dernier, l'Union européenne avait jusqu'ici été exemptée de ces surtaxes douanières de l'ordre de 10 et 25%. Bruxelles a déjà prévu une riposte immédiate avec des taxes notamment sur le beurre de cacahuète ou les jeans américains. Le compte à rebours a commencé pour le gouvernement Rajoy. Le Premier ministre espagnol et son équipe font l'objet d'une motion de censure déposée par les socialistes. Une motion qui sera débattue aujourd'hui et demain au Congrès des députés avec un vote demain après-midi. Mariano Rajoy est affaibli par un scandale de corruption. Pour réussir leur motion, les socialistes doivent recueillir une majorité absolue de 176 députés, ce qui n'est pas impossible. L'heure est donc grave au siège du Parti populaire, Marie-Hélène Ballestero.
Lorsque le Parti socialiste espagnol a présenté vendredi dernier la motion de censure contre Rajoy, personne n'y croyait. 6 jours plus tard, la situation a nettement changé, à tel point que le gouvernement espagnol pourrait bien être renversé, même si Mariano Rajoy l'a totalement exclu hier devant la Chambre des députés.
J'ai un mandat des citoyens qui ont donné à mon parti plus de 50 sièges de plus qu'à la deuxième formation du pays. J'ai un mandat également de cette chambre qui m'a élu président et jusqu'à présent, elle ne l'a pas retiré. Et comme vous le savez, les mandats durent 4 ans. C'est ce qui apporte de la stabilité, de la sécurité. Je crois que c'est fondamental pour poursuivre le processus de reprise économique que nous avons démarré. Par conséquent, mon objectif, il est de remplir le mandat conféré par les Espagnols et le mandat de cette chambre et encore plus, après avoir approuvé le budget de la semaine dernière.
En effet, après l'approbation in extremis du budget mercredi dernier, Rajoy semblait pouvoir respirer, persuadé qu'il finirait son mandat en 2020. Mais 24 heures plus tard, la justice espagnole a tout fait basculer en condamnant le Parti populaire de Rajoy pour avoir bénéficié de fonds obtenus illégalement dans le cadre d'un méga-procès pour corruption, la célèbre affaire Gürtel. Excédés, les socialistes sont montés au créneau en déposant cette motion de censure. Il faudra voir désormais combien de députés de l'opposition vont les soutenir. Ces dernières heures, ils sont nombreux à avoir dit oui. Rajoy est plus que jamais sur la sellette.
En Roumanie, c'est un coup dur pour la lutte anti-corruption. Le président roumain se voit contraint de céder face au Premier ministre. Il est obligé par la Cour constitutionnelle de révoquer la procureure du parquet anti-corruption, célèbre pour sa traque contre les hommes politiques véreux. L'Europe s'était déjà inquiétée de cette possible révocation. Un millier de personnes hier soir sont descendues dans les rues de Bucarest pour soutenir la procureure et pour défendre la démocratie. Et revoilà les tractations italiennes. Carlo Cottarelli n'a toujours pas présenté de proposition de gouvernement au président Sergio Mattarella. Il laisse le temps pendant quelques jours aux populistes de reprendre leurs discussions. Le mouvement 5 étoiles a en effet réclamé à la Ligue d'extrême droite d'écarter le nom de Paolo Savona du ministère de l'économie, un eurosceptique qui avait entraîné le veto du président pour le projet de Giuseppe Conte. Et puis en bref encore, il est le plus haut responsable nord-coréen à fouler le sol américain depuis 18 ans. Kim Jong-chol est arrivé à New York pour des discussions avec le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. Les deux hommes s'entretiennent à propos du programme de discussion pour le sommet de Singapour d'ici deux semaines. Et pour cela, il faut que la dénucléarisation de la Corée du Nord soit sur la table et effective, prévient déjà la Maison-Blanche. Un ciel encore orageux ce jeudi, particulièrement ce matin en Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA, orageux et pluvieux sur toute la façade ouest, avec un épisode qui se déplacera vers l'est en fin de journée. Les températures ce matin comptaient 16 degrés à Cherbourg et Toulon, 19 à Lille, Bordeaux, Lyon, 22 à Nice et à Paris, 24 à Strasbourg.